L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous, l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, notre World Tour. Et puis notre dossier de l'atelier US, on reviendra sur le S6SW d'Austin avec Pauline Kantner. Mais dans l'immédiat, notre passion se lance à net et on va parler des technologies spatiales au service de l'innovation, Lila Megrawa.
Oui, effectivement, François, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés José Achache. Bonjour.
Bonjour.
Alors, José Achache, vous êtes directeur général d'AP Suisse, qui est, si j'ai bien compris, l'agence de promotion suisse de l'agence européenne spatiale, c'est ça ?
C'est ça, mais dans le domaine des applications.
L'espace nous paraît tellement lointain, mais vous, ce que vous dites, c'est que ça impacte le quotidien et que les possibilités économiques sont immenses. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples à nos auditeurs pour se représenter ce potentiel de l'espace ?
Absolument. L'espace est immense, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces satellites qui sont autour de la Terre et qui vont nous aider à mieux vivre sur Terre ou à développer des services et des applications. Depuis 30 ans, 40 ans, on investit des sommes considérables dans l'espace. Et eh bien, le résultat, c'est qu'il y a des centaines de satellites au-dessus de nos têtes qui tournent autour de la Terre. Et ces satellites font essentiellement trois choses. Il y a ceux qui nous donnent du positionnement. C'est le système GPS très connu et désormais le système européen Galileo. Les Chinois en ont un autre qui s'appelle Baidu, les Russes un qui s'appelle GLONASS. Donc il y a des satellites de positionnement, ce qui fait que n'importe où sur la Terre, à quelques centimètres près, vous savez où vous êtes. Ça, c'est le premier service rendu par les satellites. Et les applications, elles sont immenses. On connaît le TomTom, Waze, tous les systèmes de navigation automobile. Mais il y en a d'autres, je vais vous en parler dans quelques minutes. Une deuxième famille de satellites qui sont les satellites de communication. Alors, on connaît bien les satellites géostationnaires qui font du broadcast de télévision, mais il y en a d'autres et aujourd'hui il y a une nouvelle technologie qui se développe, une nouvelle capacité qu'offrent les satellites, c'est d'offrir la connexion à l'Internet. Vous savez qu'aujourd'hui il y a 4 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas la connexion à Internet, qui n'ont pas la 3G, qui n'ont pas de connexion à une fibre. Pour ces gens-là aujourd'hui, il y a des satellites. Une compagnie comme Inmarsat offre aujourd'hui une couverture globale pour vous connecter à Internet avec des débits de quelques dizaines de mégabits par seconde. Mais il y en a d'autres et on entend parler d'une constellation de 600 satellites OneWeb dans laquelle Richard Branson, Coca-Cola sont impliqués. L'idée serait de faire une espèce de réseau très dense qui permettrait n'importe où, au milieu d'un océan, au milieu du désert, en Afrique, de se connecter à l'Internet. Donc vous voyez que là aussi, en termes d'application potentielle, en termes de développement, c'est toute la connectivité pour l'Afrique, continent en plein développement, c'est la connectivité à l'Internet instantanée partout, sur les océans, en mer, dans les avions. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui dans l'Internet dans les avions. Ça passe déjà par les satellites.
C'est ce que vous appelez l'Internet of Everywhere.
C'est l'Internet of Everywhere, parce que vous savez qu'on parle beaucoup de l'Internet des objets aujourd'hui. On parle des Internet of Things et on parle même de l'Internet of Everything. Everything, c'est bien, mais ce qui est plus important, c'est the Internet of Everywhere. Pour Facebook, pour Google, mais aussi pour les communautés elles-mêmes, ces 4 milliards de personnes qui sont pas connectées, du point de vue des fournisseurs, donc des Google et des Facebook, c'est 4 milliards de consommateurs supplémentaires, mais de leur point de vue à eux, ces 4 milliards de personnes, c'est la possibilité d'accéder à tous les services et toutes les informations Internet. Mais j'en ai pas fini avec les satellites. Il y a une troisième famille de satellites qui sont les satellites d'observation de la Terre. Alors évidemment, on connaît les images, les belles images de satellites, mais ça sert pas à grand chose. Par contre, il y a toutes les observations de la végétation, de l'humidité des sols, des océans. Et avec ça, on fait encore plein de choses. On fait d'abord la prévision météo. N'oubliez pas que la prévision météo, à 95% aujourd'hui, c'est des satellites. C'est des mesures du vent, c'est des mesures de température. Et pourquoi c'est essentiellement les satellites? Parce qu'il y a que les satellites qui permettent de mesurer partout la Terre. À nouveau, on a cette idée de couverture globale, on a cette idée de everywhere. Et puis ça permet d'observer la végétation, ça permet d'observer les villes. Donc pour tout ce qui est aménagement du territoire, développement urbain, pour les aspects agriculture de précision, être capable d'observer les champs, de dire, voilà, ici il y a un déficit d'eau, ici il y a trop de pesticides, ça permet d'optimiser ce qu'on met dans les champs, ça permet de réduire la pollution, ça permet de réduire les coûts de production et d'améliorer la productivité agricole pour les agriculteurs. C'est intéressant pour les petits fermiers et c'est intéressant pour des pays d'être capable de prévoir la culture, la production de riz en Asie. Ce sont des informations qui ont un impact économique considérable.
Il y a un vrai enjeu environnemental à l'heure de la COP 21, ou plutôt après la COP 21, il est intéressant de s'y pencher.
Alors oui, il y a un intérêt environnemental évident, et ça c'est ce que je faisais dans une vie antérieure. Voilà, les Sentinelles de la Terre que j'ai créées en 2002, et le programme qui s'appelait à l'époque GMES, Global Monitoring for Environment and Security, qui est devenu le grand programme européen Copernicus. Ça, c'est l'atout, la force des Européens dans la compréhension et peut-être l'aménagement du réchauffement, du changement global, du réchauffement et du climate change. Et donc, après la COP 21, évidemment, la France et l'Europe sont extrêmement armées, bien armées pour faire face, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour mesurer, pour gérer. Encore une fois, grâce à ce magnifique programme Copernicus qui est ma grande fierté. Mais aujourd'hui, c'est plus les aspects économiques qui m'intéressent. C'est plus développer des applications qui sont des applications à l'échelle des start-up, à l'échelle des petites compagnies, et dont le retour économique est évident et immédiat. Je vous parlais tout à l'heure d'agriculture de précision. Je pense que c'est le plus bel exemple qu'on peut trouver. Aujourd'hui, grâce au satellite, vous pouvez, comme je le disais, observer le champ et avoir des informations sur l'état de vos cultures, s'il y a besoin de plus de fertilisants, s'il y a besoin de plus de pesticides, s'il y a besoin de plus ou moins d'eau, tout ça on peut le dire. Une fois que l'analyse est faite, vous pouvez envoyer directement les tracteurs faire les corrections, les apports là où ils ont besoin d'être faits et uniquement là où ils ont besoin d'être faits. Et le tracteur, il est piloté par un GPS et puis l'information au tracteur, elle est envoyée par un système de communication qui peut être spatial. Et donc, vous voyez qu'on arrive à une agriculture, en tout cas pour les agricultures extensives, qui est entièrement automatisée, qui est entièrement pilotée, communiquée, mesurée par satellite. Et ça permet aux agriculteurs de se concentrer sur les activités où l'intervention humaine est essentielle, c'est-à-dire s'occuper du bétail, s'occuper de ce genre d'activités à forte valeur ajoutée, à fort besoin d'intervention humaine, et de laisser le reste aux machines et aux satellites en particulier.
Vous avez remis la semaine dernière un prix, un Space Prize, un prix spatial au SeedStars Summit, à la start-up Map Tasking. Est-ce qu'il y a un devoir d'évangélisation auprès de ces start-up?
Je ne le mettrai pas en termes d'évangélisation. Il y a un besoin. Nous, on a un intérêt à voir se développer les applications du spatial. Je pense que d'ailleurs, pour tout le monde, dans les pays développés où on a fait des investissements tellement considérables dans les infrastructures spatiales, il serait quand même bon qu'on les utilise comme moteur de développement économique, comme instrument, comme infrastructure globale. On a cette infrastructure globale, il faut l'utiliser. Donc, moi, en tant qu'AP Suisse, je suis à la recherche de sociétés qui ont des idées de développement d'applications de ces nouveaux services. Et évidemment, logiquement, puisque les satellites couvrent toute la planète et apportent leurs services partout dans le monde, ça avait un sens de se tourner vers les pays émergents. Et aussi parce qu'il s'agit d'innovation, de nouvelles idées, ça avait un sens de se tourner vers les start-up. Et donc, quand on dit start-up et pays émergents, on pense SeedStars, qui est l'organisation qui sait aller faire le scouting, qui sait aller trouver ces entreprises innovantes dans les pays émergents Et voilà, d'où le partenariat AP Suisse, Inmarsat, SeedStars, pour essayer de trouver ces startups innovantes qui utilisent du spatial et partout dans le monde.
Je vais poser une question très, très candide. Alors, entre SpaceX d'Elon Musk, Planet Labs, on avait également reçu dans une précédente émission la start-up Nova Nano, devenue Four Skies. Est-ce que, à terme, l'espace ne va pas être trop habité par les satellites?
Alors, il y a un risque, mais je vous dirais deux choses. D'abord, Elon Musk, il lance des satellites et plutôt des gros. Donc, n'augmente pas particulièrement la quantité de déchets. Et comme il veut faire des fusées recyclables, on aurait plutôt tendance à dire que lui, il va réduire la quantité de junk. Enfin, c'est surtout recycler le premier étage qui, de toute façon, partait pas dans l'espace. Mais Elon Musk, c'est probablement celui qui a donné le signal que l'espace était ouvert aux startups et que on pouvait faire du spatial différemment, on pouvait faire du spatial beaucoup moins cher. Et aujourd'hui, il fait des fusées qui sont 10 fois moins chères que Arianespace, ce qui est quand même un gros problème pour Arianespace pour les agences. Planet Lab, ils font des CubeSats. Les CubeSats, c'est vraiment intéressant. On en fait ici aussi à Lausanne. Il faut se poser la question de, effectivement, à quoi ça sert. Planet Lab, c'est joli. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Et tout le monde, maintenant, tous les gens qui peuvent faire des CubeSats mettent une caméra et se lancent dans l'imagerie spatiale. Encore une fois, l'imagerie, c'est pas ce qu'il y a de plus utile à faire depuis l'espace. Si on peut mesurer des paramètres qui sont utiles pour faire de la prévision météorologique, c'est beaucoup plus intéressant que faire des belles images de la surface. Ça fait des belles cartes postales, on met ça au mur, on les monte sur Internet. Mais c'est pas ça qui génère du business, c'est pas ça qui permet à une entreprise de vraiment se développer. Mais à l'inverse, avec ces CubeSats, on commence à réfléchir à faire le nettoyage du spatial. C'est-à-dire que un gros enjeu maintenant va être de réduire le nombre de débris, le nombre de satellites inertes, le nombre de petits machins qui volent là-bas. Il commence à y en avoir beaucoup. On les surveille, mais le risque de collision augmente. On a vu Iridium perturbé par une collision spatiale. Et donc, il faut commencer à réfléchir à des systèmes de balayage, des systèmes de nettoyage. Et il est tout à fait possible que ces nanosatellites, comme on les appelle, les CubeSats, deviennent un outil pour aller observer, identifier, capturer et réinjecter dans l'atmosphère tous ces débris spatiaux de façon à s'en débarrasser, parce que quand ils tombent dans l'atmosphère, ils brûlent et ça disparaît.
Merci beaucoup José HH. Je rappelle, vous êtes directeur général d'AP Suisse. Merci.
Merci Lila, on revient dans un instant avec, pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business, entre World Tour et notre docile atelier US, nous allons aller à Austin pour le SXSW. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business avec un spécial SXSW avec Pauline Kantner. Pauline, on va commencer par Afrostream qui est le Netflix du contenu afro qui était présent d'ailleurs au SXSW, je crois.
Oui François, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Tonje Bakan qui est le fondateur et CEO d'Afrostream. J'ai aussi la chance, nous avons la chance avec Tonje d'être au South by Southwest, plus communément appelé le SXSW à Austin, qui se tient du 11 au 16 mars pour la partie interactive, donc tech. Tonje va nous parler de sa start-up Afrostream qui est présente au pavillon French Tech Cocorico, et il va revenir aussi sur les pourquoi de cette présence ici et quels sont les bénéfices pour sa start-up. Tonje, bonjour.
Bonjour, je suis ravi d'être avec vous.
Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter ?
Bien sûr, je suis un entrepreneur français passionné du divertissement. J'ai produit du stand-up, j'ai découvert des grands talents et maintenant je me lance dans le digital en allant aux États-Unis.
Et alors, que fait Afrostream ?
Alors, Afrostream permet à des milliers de personnes de voir des films et des séries avec des afro-descendants. Ce sont des films africains, afro-américains, caribéens, disponibles sur Internet en illimité.
Alors, est-ce que ce serait juste de dire que vous êtes le Netflix du contenu afro ?
Tout à fait. On a encore plus d'ambition parce qu'on aimerait pouvoir connecter les abonnés, leur permettre de discuter, d'échanger des vidéos, de la musique. Donc, on commence comme le Netflix afro, mais notre ambition est de développer notre propre identité.
Et alors, vous avez lancé votre start-up d'abord en France. Pourquoi ?
La France est un grand marché pour le contenu afro. Il y a en France entre 3 et 5 millions d'afro-descendants qui sont finalement très peu servis par les médias. Donc il y a une grosse appétence pour eux de consommer du contenu qui leur ressemble. Et pensez à tous ces autres personnes qui ont envie de découvrir du contenu différent. Donc ça fait un énorme marché pour nous.
Comment vous est venue l'idée ?
Étant d'origine camerounaise, j'avais du mal à trouver à la télé des gens qui me ressemblent, des gens qui me permettent de me projeter et finalement d'avoir des sortes de modèles comme ça de réussite. Donc même si j'aime tous les autres contenus, tous les autres médias, j'avais besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus personnel. Et donc en étant la cible d'AfroStream, ça m'a permis de voir le problème et de trouver une solution pour des milliers, des millions de personnes.
Et à terme, quelle est la visée du projet ? Quelle serait votre plus grande ambition ? Pour AfroStream.
L'idée, c'est de se dire qu'il y a 1,4 milliard d'afro-descendants sur Terre. Donc, si demain nous pouvons, en plus d'acheter du contenu, commencer à produire des séries, produire des films, produire des documentaires, parler de sujets différents, apporter une perspective différente sur différents sujets d'actualité, ce serait très intéressant pour nous.
Est-ce que pour l'instant vous avez des retours d'utilisateurs sur votre plateforme ?
Alors oui, on a énormément de retours d'utilisateurs. On utilise les réseaux sociaux pour discuter avec eux. Il y a plus de 125 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui échangent. Ils nous demandent : pouvez-vous acheter telle série ? Ajouter telle option sur le site internet, on adore votre application, c'est un échange permanent. AfroStream est né sur les réseaux sociaux et donc on doit se servir de ça, c'est dans notre ADN.
Tonje, est-ce que pour AfroStream, vous êtes amené à travailler avec des grands groupes ?
Oui, tout à fait, on travaille avec Orange, Bouygues, donc des grands groupes dans les télécommunications. Et notre présence ici, au salon, nous permet de rencontrer des groupes internationaux et nouer des liens très forts avec eux, parce que finalement, AfroStream est un service de VOD sur Internet, a besoin de créer des plateformes avec des câbles opérateurs, des opérateurs téléphoniques, et c'est un enjeu très important pour nous.
Et comment se passent les relations entre une jeune start-up, une jeune pousse et un grand groupe ?
Elles sont bonnes à partir du moment où on arrive à comprendre le mode de fonctionnement d'un grand groupe. Vous savez, chez AfroStream, aujourd'hui, nous sommes 10 et nous parlons à des groupes où ils sont plusieurs milliers. Donc, il faut savoir naviguer dans ces grands groupes et parce que notre start-up a un potentiel énorme et surtout international, les grands groupes sont aussi patients avec nous, ils font des efforts pour arriver à bien communiquer avec nous.
Très bien, et vous êtes présent au SXSW sous le pavillon French Tech. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait de représenter la France entre guillemets à Austin pour cet événement qui est un des plus grands événements tech des États-Unis ?
Alors, on est ravis d'être l'un des fleurons de la technologie de la France et de la représenter. C'est un double honneur parce que du coup, en étant afro-descendant, donc noir, et représenter la France dans les médias, c'est un honneur, ça prouve la diversité de la France, l'audace de la France, et j'espère que ça va encourager d'autres jeunes et même moins jeunes à lancer des initiatives et à s'exporter. Les Français s'exportent peu en général, ils pensent peu aller à l'étranger. Et finalement, le monde nous accueille, donc il faut juste y aller, pousser les portes et faire ses preuves.
Et à l'échelle de votre start-up, qu'est-ce que vous pouvez en tirer de cette représentation, de cette présence plutôt au SX ?
Le fait d'être à Austin a permis à certains investisseurs américains de nous rencontrer, donc ils nous ont contactés avant même de venir durant ce festival et je pense qu'on va pouvoir lever des fonds, faire des partenariats. C'est vraiment du business, même s'il y a une grosse partie de fun.
Tonje, pour terminer, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir ?
Oui, pour l'avenir, on aimerait être encore plus proche des Français. Donc ce qui me tient très à cœur, c'est de pouvoir créer la première série afro-française, donc quelque chose de moderne qui monte une ou un afro-descendant en France dans sa modernité, loin des clichés. Et je pense que si j'arrive à en faire un succès en France, ce serait une belle victoire pour nous.
Ben on vous souhaite le meilleur. Bonne chance pour ce salon qui est formidable par ailleurs. Et merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez, Tonje.
Merci à vous.
Et toujours avec vous, Pauline, on va maintenant s'intéresser au décryptage des tendances du SXSW, qui est le grand Raoutech à Austin, comme chaque année, hein, bien sûr.
Oui, François, je suis très heureuse d'être aux côtés d'Agathe Foussa, qui est analyste stratégique à l'atelier BNP Paribas North America. Alors, nous avons revêtu nos Santiago, nos shorts à franges et nos chapeaux de cow-boy et mis le cap sur Austin. On est au Texas pour ce grand événement qui est le South by Southwest, que nous aimons appeler ici le SXSW. Agathe, c'est pas la première fois que tu viens au SXSW à Austin. Dans quelle mesure s'agit-il d'un événement unique et que viens-tu chercher ici?
Alors, en effet, Pauline, c'est pas la première fois que je viens ici. Le SXSW, c'est un événement unique qui rassemble environ 35 000 visiteurs chaque année. Il est unique de par son organisation puisqu'il englobe trois composantes assez différentes des autres conférences américaines. Le SXSW interactif, plus axé sur les nouvelles tech et qui dure environ 5 jours. Le SXSW film et le SXSW musique. Et c'est un format qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il est aussi unique car il rassemble des intervenants de toute nationalité avec différents profils issus de grandes entreprises ou de start-up, des chercheurs, des académiques ou encore des représentants du gouvernement. Donc ce qu'on vient chercher ici, c'est donc bien l'esprit unique du SXSW qui se matérialise dans ce beau rassemblement de sujets et de personnalités très diverses.
De la même manière qu'on a beaucoup parlé cette année au Consumer Electronics Show, donc le CES de Las Vegas, de la Smart Home, donc la maison connectée, et de la Smart Car, donc la voiture intelligente, et comment en fait d'un point de vue technologique ces deux écosystèmes convergent plus en plus, c'est quoi les grandes tendances du SXSW ?
Alors écoute Pauline, je pense que s'il y a une tendance à retenir de ce SXSW, c'est la réalité virtuelle. Elle a bel et bien été réelle au SXSW cette année. On en a parlé dans la plupart des sessions. Une partie de l'accélérateur du SXSW était axée sur le sujet. Et on a aussi eu l'occasion de vivre l'expérience réalité virtuelle dans 90% des installations qui avaient lieu autour de l'événement, que ce soit au studio IBM, à l'installation McDonald's, à l'espace Samsung, au stand Google Fiber ou à l'événement Crush qui proposait le premier appareil de réalité virtuelle en full motion. C'est une tendance très représentée et super intéressante puisqu'elle touche à tous les secteurs. On a d'abord beaucoup parlé de l'industrie du jeu et évidemment on comprend tout de suite pourquoi, mais elle est en fait complètement transversale à toutes les industries. On en parle de plus en plus dans l'industrie du retail, de la grande distribution au e-commerce ou même l'industrie de la mode, que ce soit pour le test produit ou le visionnage des défilés par exemple. On le retrouve aussi sur le thème de la santé avec des applications bien-être telles que Guided Meditation présentées au pavillon MedTech au SXSW. On l'a aussi vu dans l'industrie du voyage comme l'a présenté Lufthansa samedi ou encore concernant les médias avec des news de plus en plus réelles et des possibilités incroyables en termes de storytelling. Et on n'oublie pas non plus le secteur de l'éducation comme le fait notamment Google qui au sein de son espace Google Fiber ou SXSW nous parle de son programme Google Expedition, une sorte de classe verte en réalité virtuelle qui serait un véritable atout pour les écoles de demain. Du coup, voilà, la réalité virtuelle était partout et d'après les prédictions, plus d'un million de hardware de réalité virtuelle seront vendus en 2016 et plus de 6 millions en 2017. Donc je pense que voilà, ça rejoint bien une tendance plus générale qui est qu'aujourd'hui on n'achète plus des produits mais bel et bien des expériences.
Au-delà de la réalité virtuelle qui a l'air de te passionner, cette année le SXSW a accueilli un invité de marque et c'est peu dire, il s'agit de monsieur Barack Obama en personne. Tout d'abord, l'avez-vous vu?
On l'a presque vu, on était vraiment à deux doigts.
Ne continuons pas, je sens que c'est un sujet sensible. Comment interpréter sa présence?
C'est un signe fort, historiquement, c'est le premier président déjà à se rendre au SXSW. En plus, ça succède à la nomination en mars 2015 d'un ministre du Digital, qui est vraiment une première pour les États-Unis. De plus, pour rappel, Barack Obama avait aussi lancé en janvier 2015 une initiative pour créer une base de données gigantesque, rassemblant les données issues de génome de millions de personnes pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques rares. Bref, ce sont que des exemples, mais Barack Obama, c'est un des premiers présidents des États-Unis, si ce n'est le premier président, à œuvrer autant pour réconcilier les nouvelles technologies avec le gouvernement et le secteur public d'une manière plus générale.
Et alors justement, à ce sujet, est-ce que les efforts du secteur public américain pour se digitaliser sont palpables au SXSW ?
Oui, une grande partie des conférences et des groupes de discussion ont porté sur le sujet, qu'il s'agisse de l'utilisation du Big Data pendant les campagnes présidentielles ou à l'échelle des municipalités locales. Par exemple, la session « Le Big Data va-t-il choisir le prochain président des États-Unis » rassemblait les responsables de campagne électorale de Ted Cruz et Bernie Sanders qui ont pu expliquer quelles données et comment ils les utilisent pour créer des campagnes ciblées. On a aussi vu comment la tech, d'une manière générale, peut aider aider les villes et municipalités à gérer leurs challenges quotidiens en engageant les citoyens avec, par exemple, des applications les impliquant dans certaines décisions budgétaires, ou bien comme la maire de Baltimore qui a expliqué avoir développé une application de livraison de nourriture à destination des populations défavorisées pour combattre le problème de désert alimentaire dans certains quartiers de la ville.
Alors au SXSW, il n'y a pas que des conférences, il y a aussi ce qu'on appelle le Trade Show, qui est une grande exposition rassemblant une quantité incroyable de startups du monde entier. Il se déroule sur 4 jours en parallèle des conférences, il y a en moyenne 70 000 visiteurs, c'est énorme. On peut y voir des stands rassemblés par pays, enfin qui est représentatif de pays. Qu'as-tu pensé des startups du pavillon French Tech?
Évidemment, c'était les meilleures startups. Plus sérieusement, ils accueillaient une dizaine de startups. Et parmi mes chouchoutes, j'ai particulièrement aimé Smart & Blue, donc la première douche intelligente et éco-sensible qui propose un pommeau de douche connecté. Sincèrement, étant basée à San Francisco et connaissant le contexte de pénurie d'eau qu'on a vécu ces dernières années, je trouve ça particulièrement intelligent et utile sur le marché des objets connectés.
C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Agathe Foussa. Je rappelle que tu es analyste stratégique à l'atelier BNP Paribas North America. Merci.
Merci.
Agathe et Pauline, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. Notre décryptage avec Lila Megrawa et le crash test d'Antoine dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là. Encore une petite demi-heure à passer ensemble. Et puis tout à l'heure, le crash test d'Antoine Cyr. Mais auparavant, comme chaque samedi, il est à mes côtés. C'est Éric Le Bourlou. Bonjour Éric.
Bonjour.
Rédacteur en chef, vous le savez, du premier site d'actualité high-tech en France, 01net.com, qu'on retrouve chaque samedi dans l'atelier. On va s'intéresser à l'actualité de cette semaine, qui,
oui,
mine de rien, était quand même assez bien dodue.
Oui, on va dire ça,
oui. Eric, et on va commencer par Orange, le premier opérateur de France, qui a lancé sa nouvelle box, sa nouvelle live box, qui était très attendue.
Exactement, c'était à l'occasion d'un gigantesque show, hein. C'est un peu une, c'est un peu le Apple français, un peu Orange
voilà,
maintenant. C'est un peu le même genre de show.
Avec le patron Stéphane Richard,
voilà,
qui monte sur scène,
qui fait un discours un peu format keynote. Hein. Mm-hmm. Voilà, donc ils ont présenté Orange une nouvelle Livebox. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette nouvelle Livebox? Ça avait pas la précédente datait de 2013.
Oui.
Cette nouvelle Livebox, ce qu'elle a de particulier surtout, c'est qu'elle est compatible 4K. Donc
ultra haute définition.
Ultra haute définition. Donc les nouvelles télévisions qui vous diffusent 4 fois plus de pixels. Donc vous pouvez, à condition évidemment d'avoir le débit nécessaire, hein, parce que c'est vrai que la main sacrée débile, la 4K.
Parce que si vous êtes au fond de la pampa avec 2 mégabits,
c'est pas possible. Non,
ça va pas servir à grand chose.
C'est clair. Mais c'est une box à la fois donc ADSL et fibre, avec deux boîtiers. On connaît ça maintenant, les deux boîtiers. Un pour la partie réseau et l'autre pour la partie télé, et qui a la particularité donc d'être 4K. Mais c'est pas la seule, puisque Orange se vante aussi d'avoir le meilleur Wi-Fi du marché, tout simplement. Le meilleur Wi-Fi du marché avec une norme Wi-Fi. On va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais qui s'appelle le 802.11ac. Avec plusieurs antennes qui envoient le signal, si vous voulez, combiné à une autre technologie Wi-Fi, ce qui fait que vous avez, bon, sans problème, une très bonne couverture, oui, dans la maison.
En tout cas, meilleure que la précédente Livebox.
Exactement. Et
voilà, parfois
selon Orange, la meilleure. Alors on la testera quand on l'aura entre les mains, mais a priori, c'est donc un très bon Wi-Fi, et ça permet notamment de relier ces deux box. Hein. Vous pouvez séparer le côté réseau et le côté télé sans fil, du coup, puisqu'on a assez de débit pour séparer sans avoir besoin d'un câble Ethernet entre les deux.
Voilà, donc ça, voilà, c'est plutôt intéressant. Après, il faut voir si ça marche, parce que si vous mettez votre boîtier de l'autre côté de l'appartement pour regarder des images en ultra HD,
il faut voir.
C'est pas sûr que ça fonctionne.
Voilà, c'est pas sûr que ça fonctionne. Il faut voir. Mais en tout cas, c'est une box intéressante. On va voir comment évidemment elle va se comporter. Bon, il y a de fortes chances qu'elle s'écoule bien, hein, quand même, cette box. Ça ne sera pas, par contre, disponible pour les clients Sosh. Hein, ce sera réservé aux clients Orange pour l'instant, en tout cas. Et surtout, en fait, elle arrive, cette box, juste après le lancement en grande pompe aussi de la nouvelle box de SFR, hein, la Zivebox, qui est, voilà, que SFR avait vanté comme étant la meilleure, la plus puissante des box du marché, qui était elle aussi 4K. Et puis, sans doute, quelques semaines avant l'arrivée de celle que tous les geeks attendent un peu, hein, en fait, on va dire avec impatience, celle de Free, puisque voilà, Free n'a pas remis à jour sa box, sa vraie box, sa box. Il a fait une petite entre-temps, mais la Free Box a besoin d'une mise à jour bientôt, et ça va être fait dans les semaines, dans les mois qui viennent, la nouvelle Free Box V7. Donc on verra comment toutes ces box vont se comporter cette année.
2016, l'année des box.
C'est,
hein,
l'année de la guerre des box, ouais, clairement,
voilà,
puisqu'on va voir, on aura avec celle de Free, voilà, vraiment les trois grosses box, les trois nouveaux systèmes pour se connecter à Internet les plus importants qui vont arriver cette année.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'avec les téléconnectés, les petits boîtiers, etc., c'est peut-être la mort signée finalement box, des box, oui, mais elles sont toujours là, elles sont toujours là. Autant de services.
Et puis effectivement, elles servent aussi à beaucoup de choses, parce que Orange propose, j'en ai pas parlé, mais aussi un cloud personnel, vous
exactement.
Pouvez stocker des données jusqu'à 1 teraoctet de données dans votre box.
Et puis beaucoup de contenu 4K, hein, c'est
exactement.
Ça aussi,
il y a aussi les contenus
avec
qui
Orange,
vont avec, ouais.
Canal Plus Ultra HD, Netflix HD, etc., de la VOD en HD, et des matchs de foot de l'Euro 2016, qui seront en Ultra HD, donc ça c'est plutôt pas
exactement.
Mal. Exactement. On ne connaît pas son prix,
et
on ne connaît pas la date de sortie.
Non, il n'y a pas d'offre commerciale détaillée, ni de date de sortie, mais on soupçonne que ce sera avant l'été, au mois de mai, au mois de juin, voilà.
En tout cas, avant l'Euro 2016.
Exactement.
Puisqu'ils nous disent qu'on pourra voir les matchs en Ultra HD en l'Euro 2016.
Ce serait bien que ce soit disponible, du coup. Ouais.
Voilà, ça serait pas mal. Autre actu de cette semaine, c'est Sony qui a convié la presse pour en dire un petit peu plus sur son casque de réalité augmentée.
Exactement.
Ou virtuel.
Virtuel, ouais.
Voilà. C'est le PlayStation VR ou VR, comme vous voulez.
Exactement. Alors ça, c'est passé à la Games Developers Conference, qui est un énorme salon du jeu dédié aux développeurs, donc aux États-Unis. Et Sony a enfin dévoilé le prix et la date de disponibilité de ce casque, qui sera compatible donc avec toutes les PlayStation 4. Et c'est assez intéressant puisque Sony arrive avec un casque qui va coûter 400 €. Alors 400 €, vous allez me dire c'est cher, mais c'est deux fois moins cher que ses concurrents qui sont Oculus Rift par exemple ou HTC Vive, qui sont de très beaux objets mais qui sont beaucoup plus chers, 600 voire 700 voire 800
euros. Alors ils sont supérieurs techniquement, hein, bien sûr.
Alors ils sont supérieurs techniquement, c'est clair, mais ils ont aussi besoin pour fonctionner, pardon, d'un PC assez puissant. Là, vous avez besoin d'une console de jeu, la PS4 que beaucoup de gens ont déjà à la maison. Donc vous branchez ça, vous avez un petit boîtier qui vient se relier à la console, puis ensuite vous branchez votre casque et vous pouvez jouer donc à une quarantaine de jeux qui vont sortir.
Pas mal.
Ça se fait sortir donc en octobre et donc Sony prévoit aussi d'autres choses. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura effectivement des jeux pour la réalité virtuelle, mais on pourra jouer finalement à tous les jeux qu'on veut avec ce casque dans une simulation de grande salle de cinéma virtuelle.
Un écran, on aura l'impression d'être à 1m50 d'un écran de 5m.
Exactement.
Donc je sais pas si vous vous rendez compte, vous reculez d'1m50 du mur et vous imaginez un écran de 5m de diagonale, quoi.
Exactement.
Ça va être chouette.
Ça peut être chouette. Donc ça va être très intéressant de voir comment ce matériel qui va sortir juste avant Noël donc va se comporter pendant les fêtes, hein, puisque bon, il y a eu beaucoup de tentatives d'accessoires qui ont assez moyennement marché dans le milieu de la console. On pense notamment à Kinect de Microsoft. On va voir si ce périphérique là va marcher et ce sera vraiment sans doute celui qui va dire si oui ou non la réalité virtuelle sera ou non un succès. Si c'est un flop, il y a de grandes chances que malheureusement la réalité virtuelle ne décolle pas.
Oui, effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se dit qu'avec ce genre d'accessoires, la PlayStation 4 n'aurait plus besoin de télévision pour fonctionner.
C'est vrai.
Parce qu'en fait, on aurait besoin d'un casque.
On aurait besoin d'un casque. Alors même si on peut continuer aussi à regarder la télévision à côté, on
exactement.
Peut utiliser à la fois le casque et l'écran de la télé pour différents usages.
Surtout pour tous ceux qui sont autour de vous, comme ça, ils s'ennuient pas trop. Ils pourront voir un petit peu ce que vous faites.
Exactement.
Mais il y a une préconisation qui est assez intéressante que Sony nous a communiquée il y a peu. C'est que, en fait, Sony conseille de ne jouer qu'un quart d'heure par heure avec ce masque.
Ouais,
donc
ouais.
C'est pas beaucoup, hein.
C'est vraiment très peu. Et effectivement, un quart d'heure par heure, ça fait pas beaucoup par rapport à l'investissement que ça représente.
Mais quand on sait que certains jouent des heures et des heures devant leur télé.
Exactement. Bon, je pense
compliqué.
Qu'il y a aussi, ils sont peut-être pas, ils ont encore des petits.
Ils marchent un peu sur des œufs.
Ils préfèrent marcher sur des œufs pour éviter le moindre problème.
On va parler de Facebook qui est en train de préparer peut-être un truc révolutionnaire et qui va peut-être changer notre vie. Au quotidien, dans quelques mois.
C'est possible, si ça marche. En tout cas, peut-être que vous utilisez comme 800 millions de personnes à travers le monde le service Messenger, la messagerie de Facebook. Eh bien, il se pourrait bien que dans très prochainement, elle s'enrichisse cette messagerie d'une fonction très intéressante. Facebook, en fait, est en train de préparer ce qu'il appelle le Bot Store. En gros, comme l'App Store, si vous voulez. Un endroit où vous pourriez télécharger ou plutôt vous abonner à différents services. Mais ce serait pas des applications puisque ce serait des robots. robot logiciel
qui comprendrait nos requêtes.
Qui comprendrait vos requêtes. Alors
exemple.
Exemple, par exemple, vous êtes au stade, vous avez besoin d'une bière, plutôt que de télécharger l'appli.
Une bière sans alcool, hein, bien sûr.
Oui.
Oui, bien sûr,
évidemment.
Évidemment.
Vous désirez ardemment cette bière, plutôt que de télécharger l'appli du stade, de vous inscrire, vous connectez à Messenger, vous ajoutez ce bot qui ne sera pas installé puisqu'il existe en fait déjà. C'est juste un contact que vous ajoutez. Vous lui demandez une bière, vous payez puisque vous avez déjà vos infos de paiement dans Facebook. Et puis voilà, votre bière arrive, vous allez la chercher au bar si vous voulez. Mais voilà l'usage.
On peut commander un Uber simplement aussi.
Ou par exemple un Uber ou en fait à peu près tous les services que vous voulez sur internet, ou alors si vous voulez Le Bon Coin, vous avez Le Bon Coin pourrait éventuellement vous contacter dès qu'il voit une nouvelle location disponible, ou un nouveau produit qui vous intéresse disponible, ou quand votre produit a été vu. C'est exactement ce genre d'usage qui pourrait arriver. Alors évidemment les développeurs vont devoir s'en emparer, on va voir si ils vont effectivement prendre cette nouvelle révolution des bots, hein, puisque c'est pas Facebook ne sont pas les premiers à créer un tel système. Il y a déjà des gens comme Slack, hein, qui fait une application qui est très connue dans le monde du business du chat par équipe dans l'entreprise, qui utilise déjà ce genre de bot et ça révolutionne la vie des gens dans l'entreprise. Et donc là c'est vraiment une version grand public de ça, et ça pourrait effectivement avoir un impact considérable à l'avenir. Voilà. Surtout que effectivement on l'a dit au début, 800 millions d'utilisateurs mensuels de Facebook Messenger, c'est pas mal.
On enchaîne avec les incontournables rumeurs concernant les futurs iPhones. Alors, vous le savez, il y a toujours quelque chose à raconter.
Exactement.
Sur ce sujet, juste en aparté, lundi soir prochain, keynote d'Apple, non pas concernant l'iPhone 7, mais un petit iPhone, hein, c'est une mise à jour de l'iPhone 5 que l'on connaît tous. Voilà, il aura la même taille, mais avec à l'intérieur toutes les dernières puces, etc. Un nouvel iPad Pro, sans doute plus petit. Voilà, mais c'est pas ça qui nous intéresse, non. Puisque c'est surtout l'iPhone 7 qui sera présenté en septembre prochain.
Exactement.
Et là, se dessine peut-être un double capteur photo.
Exactement, un double capteur photo pour l'iPhone 7. Alors, Apple, hein, on l'avait déjà dit ici, Apple a perdu un peu le lead sur la photo sur mobile, hein, au profit de Samsung notamment, de LG, et on a l'impression qu'ils voudraient un peu le reprendre. Donc, ils seraient en train de préparer.
L'ingénieur qui développe tout le système photo chez Apple, il doit se faire taper sur les doigts quand même de temps en temps, non ?
Tout à fait. c'est sûr.
Dès qu'il doit avoir un nouveau téléphone, il doit être là, mon Dieu.
Et donc voilà. Alors, il y a des photos ont commencé à circuler sur Internet. Alors encore une fois, ça reste de la rumeur, mais c'est tout à fait probable. On rappelle qu'Apple a notamment racheté une société qui bosse sur des capteurs un petit peu innovants de ce type, qui s'appelle Lynx. Une photo avec un iPhone, un grand format, comme l'iPhone 6 Plus, pardon, qui aurait deux capteurs à l'arrière. Alors deux capteurs photo à l'arrière, vous allez dire c'est génial, parce que comme ça ils vont pouvoir. Bon, c'est génial pour les vendeurs de capteurs déjà, mais c'est aussi génial parce qu'ils vont pouvoir le vendre encore plus cher.
Oui.
Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue des usages, puisque ça pourrait permettre beaucoup de choses différentes. Alors c'est pas une nouveauté d'ailleurs, il y a déjà eu des smartphones avec double capteur, il y a le LG G5 qui va sortir, qui en a deux aussi, mais on peut imaginer beaucoup de nouveaux usages pour ces capteurs là, notamment par exemple une meilleure utilisation des basses lumières. On pourrait pourquoi pas imaginer faire des photos presque dans la nuit. On pourrait aussi imaginer avoir des effets de type réflexe, vous savez, quand vous prenez un portrait avec un réflexe et vous
avec
avez
un flou un très joli
un
flou
très joli flou à l'arrière. Ce genre de choses, ça peut être possible tout à fait avec un double capteur. Ça peut être aussi deux focales comme l'a fait LG, avec une focale normale et une focale grand angle par exemple, ou quelque chose pour davantage pour les portraits. On va voir, mais en tout cas apparemment le prochain iPhone aurait aussi deux capteurs. C'est la grosse tendance de cette année,
les smartphones avec ce double capteur photo.
Exactement, vous avez le LG G5, mais il y a aussi Huawei qui va arriver avec son nouveau smartphone qui aura un double capteur, et aussi HTC qui veut revenir en force sur la photo et qui aura aussi un double capteur.
Parfait, merci beaucoup. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef donc, vous le savez, de 01net.com. Vous restez là, la suite de l'atelier Crash Test dans un instant avec Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Le crash test d'Antoine Cyr pour terminer cet atelier dans un instant, mais auparavant le décryptage de Lila Megraoua, et on va parler de l'intelligence artificielle que l'on met face à l'intelligence humaine. Qui va gagner, Lila ?
Mais oui, François, qui gagnera ? La machine ou les hommes ? c'est l'éternelle question des robots et des hommes. C'est, semble-t-il, la question que se sont posées les Coréens et du coup plusieurs millions de curieux à travers le monde face au match qui a opposé la semaine dernière un humain, Lee Sedol, qui est un maître du jeu absolu mondial du jeu de Go, et l'AlphaGo, un programme développé par la filiale de Deep Learning, spécialisée en Deep Learning, de Google, DeepMind. Alors, c'est un match qui a signé la défaite à 4-1 d'un cador de la discipline face à une machine. C'est une défaite qui traduit surtout les avancées conséquentes de l'apprentissage profond. Le jeu de Go étant l'un des bastions des derniers jeux, on va dire, rétifs au doigté d'une machine. Une partie de jeu de Go serait en effet difficile à prévoir, mais apparemment pas pour le deep learning. Alors, en Corée du Sud, nous raconte le New Scientist, la soirée qui aurait suivi la première défaite de Lee Sedol, roi en son pays, aurait créé une certaine déprime auprès de ses compatriotes. Et de préciser, rendez-vous compte, beaucoup de gens se seraient saoulés. Alors, la victoire de la machine contre l'humain dans divers jeux, c'est pas neuf. Rappelons la victoire de Deep Blue, du programme Deep Blue, face aux champions du monde des échecs de l'époque, et c'était en 96. Alors, chose amusante, si aujourd'hui les logiciels d'échecs peuvent défier sans coup férir les joueurs humains, la victoire de Deep Blue était en réalité un bug informatique, entraînant le sacrifice d'un pion, mouvement qui aurait en fait déstabilisé Kasparov. Alors, est-ce qu'il y aurait un peu de sens du hasard? Allez, soyons fous, de créativité dans la machine. Serait-elle créative, cette machine? C'est en fait la crainte d'une machine qui serait dotée d'une qualité humaine, la créativité, que cache en vérité le tollé soulevé par la victoire d'AlphaGo sur Lee Sedol. Si la machine peut avoir de l'intuition et être créative, ne pourrait-elle me remplacer un jour dans mon travail? Alors derrière, la crainte que l'intelligence artificielle supplante un jour et domine l'homme. Sauf que, écrit très bien Boris Solinsky dans Sud-Ouest, avant de commencer à craindre la domination de l'intelligence artificielle sur l'homme, il faudrait déjà qu'elle soit seulement capable de ce qui est évident pour nous. D'émotions, de conscience, de rêves. La machine n'a d'autres fantasmes que celui que l'homme projette sur elle. Et j'ajouterai, les amis, à l'instar de Serge Habitboul, qu'on a reçu assez souvent à ce micro, et Tristan Cazenave dans un excellent article dans Slate, que je vous invite à lire, que la victoire d'AlphaGo est bel et bien une victoire pour l'humanité. Ce sont, martons-le, les avancées de la recherche en informatique qui ont permis cela. Ce sont des logiciels écrits par des humains qui ont gagné. Bref, le jour où Google Translate traduira Dostoïevski avec autant de sensibilité qu'André Makin n'est clairement pas encore arrivé. Réjouissons-nous.
L'atelier numérique sur BFM Business. Best of.
Place maintenant donc à notre crash test avec Antoine Cyr pour clore cet atelier numérique. Et Antoine, vous avez choisi pour nous Dead Morose.
Oui, je vais vous parler de Dead Morose.
Ce qui n'est pas un groupe
alors,
de rock.
Alors, ce n'est pas, déjà, Dead Morose n'est pas un gars qui est mort et qui est morose.
Oui. Voilà, c'est ça. Parce que ça lui fait le double effet.
Le double effet. D'accord. Non, pas du tout. Dead Morose n'est pas mort. D'accord. Et n'est pas morose. Oui. Donc Dead Morose est tout sauf dead et tout sauf,
et tout sauf morose.
Car Dead Morose, c'est en fait le Père Noël russe.
Le Père Noël russe?
Le Père Noël russe. Et alors, vous allez voir, il est assez passionnant, ce Père Noël. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tous les Pères Noël, il a une vie compliquée qui l'a amené à son état actuel de Père Noël. Par exemple, vous savez que...
Il n'est pas né Père Noël, en fait.
Vous savez, hein, par exemple, que le Père Noël, notre Père Noël à nous, oui, c'est une espèce de mélange de Saint-Nicolas et d'une publicité de Coca-Cola qui a créé le personnage du Père Noël tel qu'on le connaît dans les années 30, et puis aussi de la légende de Sleepy Hollow donc c'est un
mélange de légende en quelque sorte d'histoire
de mélange très compliqué le Père Noël. Donc le Père Noël russe s'appelle Dead Morose. Alors, à l'origine, de la même manière que notre Père Noël à nous, il est un mélange de légendes saintes et de légendes plus sombres, puisque les légendes les plus anciennes décrivaient ce Dead Morose comme un sorcier méchant et cruel qui était proche d'anciens dieux slaves, comme par exemple Posvitz, qui était dieu du vent, ou Zimnik, qui était dieu de l'hiver, sans parler de Koroshun, qui était un roi souterrain régnant sur les froids, glaciaux.
Il a pas l'air sympa, lui, le dernier. Enfin, les deux précédents non plus, mais alors voilà. Lui.
Et donc, selon la légende, Dead Morose ne parsemait pas du tout les cheminées des petits enfants de cadeaux, mais il aimait congeler les gens, enlever les enfants et les emporter dans son grand sac.
Ça puis, commence mal.
Oui, et puis petit à petit, c'est d'abord l'église orthodoxe qui a transformé le personnage de Dead Morose et qui en a fait petit à petit un personnage assez proche de Santa Claus, en fait, du Père Noël. Et puis alors là, d'un seul coup, Dead Morose a acquis une immense gloire. C'est au moment de l'Union soviétique qui s'est dit que ça pouvait être un personnage très intéressant, qu'il a évidemment laïcisé, puisque l'époque communiste était une époque sans religion. Alors, comme c'était une époque sans religion, la fête de Noël a été supprimée. Donc, on a décidé que Dead Morose apporterait les cadeaux au jour de l'an. Et donc, c'est pour ça que les Russes continuent d'ailleurs aujourd'hui de faire la fête des cadeaux au jour de l'an.
Ils reçoivent deux fois des cadeaux ou...
Non. Le Noël, c'est le jour de l'an. C'est la grande fête des cadeaux. C'est de l'arbre de Noël, de tout ça. C'est le jour de l'an. Et donc, ils ont exporté Dead Morose à l'extérieur, dans les autres pays communistes, donc qui ont pris l'habitude aussi d'avoir non pas notre Père Noël façon Coca-Cola, mais Dead Morose.
Quoi qu'il est habillé de rouge.
Alors justement, vous allez voir. Vous allez voir.
Je suis en train de.
Et puis, évidemment, ce Père Noël-là, mais ça, depuis, c'est revenu à quelque chose d'un peu plus normal, n'apportait pas forcément les cadeaux à des personnes, mais à des groupes. Il apportait au groupe de pionniers, au groupe de Komsomol, aux soviets locaux. Enfin voilà, il apportait des cadeaux collectifs, évidemment, Dead Morose. Mais ça, on est revenu à un Dead Morose qui est devenu plus individualiste. Alors. Vous avez des dessins animés de Dead Morose sur YouTube, donc vous pouvez voir à quoi il ressemble. Il est tout à fait, évidemment, dans ses dessins animés, tout à fait gentil. Et vous allez voir qu'il est accompagné par une assistante qui est peut-être sa fille, enfin qui fait une grande partie du travail là sur le petit dessin animé que j'ai pu voir. Elle prend un avion et elle le sauve. Enfin bon, elle est vraiment. En gros, lui, il est assez flemmard et c'est elle qui bosse. Elle s'appelle Snegurochka, ce qui veut dire en russe, donc ça vous l'avez sur la fiche évidemment Wikipédia de Dead Morose. Donc Snegurochka veut dire en russe petite fille des neiges ou fée des neiges, et donc elle accompagne ainsi ce brave Dead Morose. Et alors, quand même, là où évidemment je ne pouvais pas vous laisser dans l'ignorance de l'existence de ce Dead Morose, c'est qu'il y a un site qui s'appelle New Eurasia Citizen Media qui a fait un article intitulé « Why Dead Morose is infinitely more badass than Santa Claus ». Bon, voilà. Donc, badass, évidemment, tout notre public de geeks...
ont une petite idée de la traduction.
Une petite idée de la traduction, quoi. Voilà, enfin, bref, c'est super, quoi. Voilà. Et donc, pourquoi Dead Morose est beaucoup mieux que Santa Claus? Alors, il y a trois arguments. D'abord, je vous lis en anglais, Dead Morose has vastly superior style. Il a un style immensément supérieur.
D'accord.
En effet, on voit une photo de notre Père Noël à nous. Alors, c'est toujours compliqué de faire de la radio avec des photos, mais bon, on va essayer quand même.
Imaginez le Père Noël quand même.
Donc, voyez, on a un Père Noël là, rouge, avec des lunettes, etc.
Oui, sa barbe blanche.
Et puis, alors, regardez Dead Morose. Alors, Dead Morose, il a une barbe blanche aussi.
Oui.
Mais il a un costume incroyable.
On se croirait dans Game of Thrones.
Ben voilà, il a un costume. Dead Morose, il ressemble, c'est un héros de Game of Thrones.
Oui, c'est
quoi.
Vrai,
donc,
c'est
tout de suite, il
a.
Voilà, il est quand même. Voilà, il est très, très supérieur en termes de style à cette espèce de bonhomme rouge.
C'est pas facile à porter tous les jours, ça. Hein.
Non, pas facile parce qu'il y a des cordes, il y a des trucs. Enfin, bon, voilà. Alors, deuxièmement, Dead Morose a une monture, hein, a ride, comme c'est écrit dans le site en anglais, a une monture beaucoup plus cool, puisque on voit le Père Noël là aussi avec des petits un train de, c'est pas des chiens qui tirent le, c'est des rennes qui tirent le chariot du Père Noël. Et alors on voit Ed Moroz, lui il a des chevaux à tête de femme, enfin là il a
il est un peu plus rock'n'roll quand même.
Beaucoup plus rock'n'roll, quoi. D'accord. Et puis alors, évidemment, la troisième preuve, c'est que Ed Moroz has sexier servants,
donc ben voilà.
des assistantes plus sexy. Bon, alors déjà l'usine, on voit que nous on a des petits lutins là, c'est sympa les petits lutins, voilà. Et donc effectivement, Ed Moroz,
on n'a rien contre les lutins, hein.
Mais Ed Moroz, il a quand même un atout extraordinaire qui est effectivement cette Snegurochka. Donc là, vous voyez une photo où on voit un Ed Moroz avec une Snegurochka qui a l'air quand même un peu d'avoir un peu froid quand même.
Oui, parce qu'elle n'est pas énormément habillée.
Elle n'est pas non plus.
Elle est tout à fait présente. Elle
n'a
pas une
doudoune,
quoi.
Non, elle est plutôt habillée en patineuse artistique.
Voilà, c'est ça.
Ce qui, à mon avis, à certains moments dans les rues de Moscou,
peut servir à quelque chose.
Non, mais doit quand même. Enfin, elle doit être contente d'avoir peut-être les patins, mais je pense que sur
cela dit, quand elle s'active, elle n'a pas le temps de se refroidir.
Voilà, puisque je rappelle donc que la caractéristique du Père Noël russe d'être
rose, de se la couler douce.
C'est que il livre les cadeaux, mais à un rythme certain.
Ouais.
Et donc, tout ce qui est raté, tout ce qui pourrait poser problème, c'est donc cette Snegurochka qui lui rattrape la situation.
Voilà.
Mais c'est quand même intéressant de voir que nous, on a pensé à un Père Noël qui était tout seul, et que d'autres ont pensé à un Père Noël qui arrivait en équipe.
Qui était assisté, voilà, avec sa secrétaire.
Voilà, alors, elle s'attire quand même une grande partie de la sympathie du jury, il faut bien le dire.
C'est vrai.
On peut parler d'une équipe quand même.
Merci Antoine pour ce crash test.
Bah de rien.
Et on se retrouve la semaine prochaine, on sera là bien évidemment. Cet atelier est terminé, merci d'avoir été avec nous, comme chaque samedi de 16h à 18h sur BFM Business. N'oubliez pas le podcast dans quelques heures disponible, bien sûr si vous nous avez retrouvé en route, et on sera là samedi prochain dès 16h. Salut à tous.